Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Fin de semaine sainte et dernière fin de semaine de mars. Ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bonne fin d'avant-midi sur les ondes de CFAC 88.3 à Sherbrooke et de Chiz 94.3 à Québec. Vos radios universitaires préférées. Content de vous retrouver en cette fin de semaine sainte. Fin de semaine de Pâques. Et accessoirement, dernière fin de semaine de mars 2024, déjà le premier quart de fait, les trois premiers mois passés. Et pour continuer dans les petits clichés, mon Dieu que le temps passe plus vite quand on vieillit. Déjà la fin mars, ça n'a pas de bon sens. On va être rendu à Noël dans le temps de le dire. Des gens, en tout cas, qui auraient hâte que Noël arrive. C'est le gouvernement de la CAQ. Mais avant de tomber dans le négatif, il y a quand même eu une mini-victoire cette semaine. Et pas seulement pour la CAQ, mais pour les autres partis d'opposition également. Puisqu'on a demandé, ou en tout cas on va demander, l'arrêt. Pas des procédures, mais de suspendre le processus de révision de la carte électorale. On en avait parlé un petit peu à l'émission lorsque les premières informations étaient sorties. Autant au fédéral qu'au provincial, il y a des redécoupages de cartes qui se font un peu tout le temps pour que justement l'esprit de la population qui soit représentée dans ces régions-là ne soit pas trop débalancé. Des circonscriptions trop populeuses peuvent être amenées à être divisées, comme des moins populeuses peuvent être appelées à être fusionnées. Et du côté provincial, ça devait se faire pour la prochaine élection. Et pour quand même conserver 125 députés, on décidait de fusionner certaines régions pour pouvoir donner deux autres comtés. En l'occurrence, détruire la circonscription de Gaspé, en Gaspésie, pour fusionner la moitié nord avec Matane-Matapédia, donc qui partirait de Rimouski jusqu'à Gaspé pour la rive nord, et que le sud serait englouti par Bonaventure. Donc, plutôt que d'avoir trois circonscriptions, limite du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on tombera à deux. L'autre circonscription visée, c'était dans Montréal, dans l'est de Montréal. La circonscription de Paul Saint-Pierre-Plamondon, Camille Lorrain, empiéterait sur Louis Hébert, ou c'est Louis Joliette. Anjou-Louis Riel, dis-je bien. Louis Hébert, c'est à Québec. Quelle erreur. Donc, Anjou-Louis Riel serait divisé en deux. pour donner Hochelaga Louis-Riel et Camille Lorrain prendrait en joue. Les deux nouvelles circonscriptions seraient au centre du Québec, Drummondville. Se nommerait, oh, on a déjà les noms même, Marie Lagos, Lacoste Guérin-Lajoie, près de Drummondville. Et on créerait dans les Laurentides, j'allais dire la Naudière, mais c'est dans les Laurentides, on créerait la circonscription de Bellefeuille. Et là, on pourrait se dire, ouais, bon, la CAQ essaye de se protéger, mais non, pas tout à fait. Oui, bon, la circonscription actuelle d'Anjou est détenue par une députée dont on n'a aucune idée c'est qui. Malheureusement pour elle, mais en tout cas, dans les quelques représentants de la CAQ qui sont dans le coin de Montréal, Anjou Louis-Riel en était une de celles-là. À une certaine époque, un certain Pierre-Marc Johnson en avait été le député. Pour dire les années 70-80, Karine Boivin-Roy, sa prédécesseure Lise Thériault, elle-même, on s'en souviendra, avait. Donc voilà, elle avait été. Ah, ça veut dire. Ah, c'est vrai, elle avait été défaite. Et la CAQ avait réussi à en prendre possession. Et la circonscription de Gaspé, quant à elle. Résultat de la dernière élection du 3 octobre dernier est allé également à la CAQ. Mais ça ferait en sorte que ces deux sièges-là seraient perdus à la CAQ. Ben, de toute façon, les sondages en ce moment ne sont pas bons pour la CAQ. Donc, de toute façon, il aurait été perdu. Mais ça profiterait dans ce cas-ci au PQ. Puisque Matane Matapédia appartient au Parti québécois. Et Camille Lorrain, à Montréal, est également au Parti québécois. Donc, ce serait des gains pour le PQ. Mais, dans cette conférence qui a eu lieu cette semaine, un représentant de chaque parti y était. Libéral, solidaire, Parti québécois et Jean-François Roberge allaient proposer une motion pour geler pour l'instant la fusion des circonscriptions, fusion et diffusion des circonscriptions dans ce cas-ci. En fonction de l'entente conclue entre le gouvernement et l'opposition, un premier projet de loi suspendra le processus de redécoupage en cours qui devait déboucher sur le dépôt d'un rapport révisé en septembre prochain sur l'établissement d'une nouvelle carte pour la prochaine élection de 2026, qui arrive quand même assez rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est pour ça qu'on s'est quand même dépêché à éventuellement mettre un halte là. L'accord prévoit en outre le dépôt subséquent d'une seconde pièce législative qui relancera le débat sur les critères que la Commission des représentations électorales devrait respecter pour revoir les délimitations des circonscriptions, les paramètres actuels étant jugés désuets par la classe politique. Donc, dans l'idée que seulement le nombre d'habitants sur un territoire devrait justifier ou non plutôt que le territoire en tant que tel. Parce que si on dit que la circonscription s'étend de Rimouski à Gaspé, ça se fait en une journée, mais c'est mieux d'être un déjeuner à Rimouski puis un souper à Gaspé parce qu'un dîner ne sera pas possible, compte tenu de la distance et justement de la réalité terrain du fait que cette circonscription serait extrêmement longue. Évidemment, il y a des circonscriptions encore pires. Prenons Ongava, qui est probablement la plus grosse circonscription au Québec, mais quand même. Donc, dans ce cas-ci, surtout, la réalité est complètement différente entre Rimouski et Gaspé, évidemment. Donc, pour essayer de rester le plus possible dans quelque chose de représentatif. Évidemment, la Gaspésie aussi, ça leur fait un siège en moins. Fait que c'est sûr que pour eux, c'est pas non plus gagnant-gagnant. ça serait de fusionner, par exemple, les deux Abitibi parce qu'il y a plus de monde, par exemple, en banlieue de Québec. Fait que, tu sais, évidemment, on ne veut pas perdre de son poids électoral par région non plus, c'est sûr et certain. Mais après ça, plusieurs questions se posent. Sommes-nous réellement obligés de rester à 125 députés? Oui, il y a un projet en ce moment de vouloir rénover le Salon Bleu, rénover la disposition des sièges. En ce moment, on est assez carré de la manière que c'est fait. On voulait aller opter pour un salon un peu plus rond. Donc, il fallait adapter des bureaux, il fallait adapter l'espace pour que ça soit un petit peu, ben, ne serait-ce qu'un petit peu moins carré, mais de reconfigurer pour que tout le monde ait son siège équitablement, que les 125 sièges soient bien répartis. Donc, à la question, est-ce qu'on pourrait rajouter deux sièges, quand même faire Bellefeuille et l'autre circonscription qui a un nom très, très long, Marie Lacoste-Gérin-Lajoie. Tu sais, c'est pas complètement impossible. Pourquoi on pourrait pas monter non plus à 129? Parce qu'éventuellement, il va sûrement y avoir d'autres circonscriptions à rediviser ou à subdiviser. Fait que la question est là. Évidemment, à la base de tout cela, si François Legault avait respecté sa promesse qu'il avait signée lorsqu'il était dans l'opposition, donc évidemment lorsqu'il n'était pas au pouvoir, de faire une réforme électorale, peut-être qu'on n'aurait même pas besoin de se poser cette question-là parce que la réforme électorale ferait en sorte qu'évidemment le nombre de députés serait complètement modifié, tout dépendamment de cette nouvelle manière de faire et cette nouvelle manière de voter. Mais ça ferait quand même en sorte que ça soit beaucoup plus représentatif de ce que c'est supposé être. Parce que François Legault a obtenu à l'élection 90 sièges, en a perdu un et enchaîne depuis ce temps-là les mauvaises actions, les gaffes et tout ça depuis. Donc, il le place à seulement 89 députés à l'Assemblée, mais avec 71% de la députation, alors qu'il a obtenu la moitié au pourcentage des votes qu'il a obtenu à la soirée électorale. D'où pourquoi il y a une anomalie complète dans le système électoral. C'est que François Legault obtient 30-35% des intentions de vote, mais obtient 71% du pouvoir. Donc, évidemment que ceci ne fait pas de sens. D'où l'élection où le pourcentage devient important et non pas le pourcentage dans 125 petites élections. C'est que le pourcentage global devrait primer normalement. Et surtout dans le fait qu'on est dans une élection à 5 partis. Tout le mal qu'on peut dire d'Éric Duhaime, il avait quand même obtenu plus de 10% des suffrages qui auraient dû normalement lui donner un siège. Mais comme il était tellement éparpillé qu'il ne s'est pas présenté non plus dans une bonne circonscription pour lui, il a perdu. Donc même lui, en tant que chef, il n'a pas été capable de se faire élire. Parce qu'il tenait absolument à se présenter à Québec, dans une circonscription où son parti a toujours fait la deuxième, troisième ou quatrième place, mais qui se disait « Ah, je suis le chef, ça va être suffisant », comme s'il ne pouvait pas prévoir qu'il allait avoir une levée de bouclier de gens qui allaient faire exprès d'aller voter pour son adversaire Kakis. Tandis qu'en Beauce, c'est Beauce-Nord que ça s'est réglé à moins de 100 votes. Le chef aurait fait une différence dans cette circonscription-là. Mais ça, c'est dans le modèle électoral où les 125 petites élections priment sur le pourcentage global. Évidemment, les commissaires de la Commission de la représentation électorale se disent préoccupés par l'intention des partis représentés à l'Assemblée d'adopter un projet de loi. À leurs yeux, la légitimité du processus de révision de la carte électorale doit reposer sur son indépendance et sur son impartialité. Mais dans le cas où ce n'est pas uniquement Jean-François Roberge de la CAQ en tant que responsable... c'est quoi son titre à ce moment-là? Responsable du travail parlementaire, ou en tout cas. La job qu'ils ont donné pour l'enlever de l'éducation, ben c'est normal que on s'ingère une petite affaire dans l'élection. Les élus peuvent revoir les paramètres des critères de délimitation, mais ce serait préférable de faire à l'extérieur du processus de révision de la carte, qui est déjà en cours. Cela assurerait une plus grande neutralité dans la réflexion, selon... selon voilà, les membres de la CRI. La carte électorale actuelle a été établie à partir de données démographiques de 2014, ajoutant que 10 ans plus tard, l'évolution de la démographie québécoise a déjà entraîné d'importantes inéquités de représentation qui s'accentueront d'ici 2026. Donc, c'est pas complètement terminé, mais évidemment, le dossier restera dans l'actualité, quelques temps, voir ce qui arrivera avec ça, c'est sûr et certain. On s'arrête quelques instants, au retour, la suite de ce deuxième service, ici même, sur les ondes de CFAQ 80.3 et de CHIS 94.3. De retour au deuxième service, encore une fois, j'allais dire Radiant Baby, Radiant Baby, mort de rire. Il doit être mort de rire, justement, qu'on sache peut-être jamais comment prononcer son nom comme du monde sans se tromper. C'est ce qui arrive. Article intéressant que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux cette semaine. Quand troller peut mener en prison. Oui, troller peut mener en prison, en fait, le vrai titre. Puisque, bon, j'en ai parlé également à l'émission dans les dernières semaines, énormément de mairesses, de maires, d'élus politiques en général, se font harceler en ligne. Et il y a toujours la fameuse ligne qui ne doit jamais être traversée où on tombe dans le harcèlement plutôt que dans le simple trollage, entre guillemets. Bon, troller les trolls. Essentiellement, c'est des gens qui vont être le plus souvent anonymes sur les réseaux sociaux et qui vont faire exprès de dire le contraire de tout le monde pour chercher à provoquer ou de dire des infamités, encore une fois, juste pour troller, pour faire, tu sais, on a l'image du troll, de la figure en tant que tel, le petit bonhomme qui fait des niaiseries en dessous d'un pont. Bon, là, on peut peut-être enlever l'image du pont, quoique... L'image qu'on se veut des trolls, c'est que c'est des gens qui sont cachés chez eux dans leur sous-sol à écœurer le monde sur les réseaux sociaux. Et justement, il y a toujours cette limite qui ne doit pas être franchie pour tomber dans du harcèlement. Quand quelqu'un va aller jusqu'à s'en prendre à une personne directement, comme c'est arrivé, par exemple, à Sébastien Rioux dans le Bas-Saint-Laurent, qui, lui, recevait des menaces de « je vais venir chez vous, je sais où t'habites, je sais à quelle école tes enfants vont », et le personnifie sur les réseaux sociaux pour le faire passer pour un pédophile. Là, on a franchi la limite du trollage qui se peut. Ben, dans qui se peut, qui est inoffensif, entre guillemets. Puisque justement, la ligne entre troller pour agacer, pour écœurer sur les réseaux sociaux est très, très mince avec le harcèlement. Et là, loin de moi l'idée de vouloir faire du prosélytisme et de dire que tout doit être joyeux et qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Là, loin de là, hein, ce n'est pas une théorie que tout est beau d'un bord et que tout est mauvais de l'autre. Évidemment que non. Parce que le trollage peut être aussi, comme je le dis, inoffensif que les gens qui reprennent d'autres personnes sur leur qualité de français. J'ai rien compris de ce que tu as dit, écrit en français, tu sais. Corriger les autres de leur français approximatif, techniquement, c'est du trollage. Parce que on ne prend pas au sérieux le propos qui est écrit parce que c'est mal écrit. Et dans les langues qui sont difficiles à écrire, c'est bien le français. Et c'est pas juste parce que c'est dur à enseigner, c'est parce que c'est dur, ben oui, c'est dur à enseigner, mais c'est pas juste parce que les gens ne retiennent pas leur français de base que nécessairement l'argument qui est véhiculé est mauvais. Faut pas oublier le pourcentage d'analphabètes fonctionnels en société québécoise, il est assez élevé. Oui, l'école est difficile. Mais de tout invalider parce que c'est mal écrit, c'est pas mieux que de juste faire comme « c'est plein de fautes, rien compris ». Mais ça, encore là, c'est du trollage, c'est un troll. Mais c'est pas visé nécessairement contre la personne en particulier. Parce que règle générale, les gens qui vont reprendre l'orthographe des gens sur les commentaires Facebook ou Instagram, ben, ils vont le faire en général. Ils ne feront pas nécessairement avec une seule personne. Jean-Michel Bertiome, docteur en sémiologie, chargé de cours à l'École des médias de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM. Selon lui, il est fort possible qu'on sous-estime de nos jours l'incidence du troll sur Internet puisque le terme est galvaudé. Sans parler de prison, ce qu'il dit, l'enfer que peut représenter un troll est immense. Au sens où, justement, lorsqu'on tombe dans le harcèlement, c'est que ça devient à tous les jours, ça devient régulier. Et encore une fois, malheureusement, je prends l'exemple de Sébastien Rioux, c'est que c'est une personne, Peter Poncac, qui crée des dizaines de comptes pour que tous ces comptes-là alimentent le principal harcelé. Donc, ça donne un peu l'impression également qu'ils sont plusieurs harceleurs, alors que ça part tout de la même personne. De plus en plus d'attitudes numériques ont été ajoutées au spectre du terme troll, qu'elles soient permises ou tolérées à cause de l'anonymat conféré par Internet. Pour Jean-Michel Bertiome, c'est une accélération des comportements antisociaux en ligne qui a transformé non seulement le sens du trollage, mais aussi ses cibles. Si le troll ne visait auparavant personne en particulier, donc des gens qui vont volontairement dire des grossièretés pour dire des grossièretés que un groupe de gens disent « Oh mon Dieu, regardez ce compte-là, ça a donc ben pas de bon sens, qu'est-ce qu'il dit, nanana. » Maintenant, dans sa mire, des communautés ou des personnes sont plus précises, des cibles sont plus précises. On a plein de termes pour préciser la nature des actes, mais on revient à trollage parce que c'est devenu le mot valise. Donc, dans la grande famille du trollage, il y a harceler criminellement du monde, envoyer des infamités ou dire à quelqu'un qui ne sait pas conjuguer le verbe être. Ça brouille la gravité des actes commis, car on peut dire troll pour personne gossante, autant qu'un criminel jugé coupable de cyberintimidation à la cour. Donc, la cyberintimidation, le cyberharcèlement, c'est là-dedans. Mais les agressions, la diffamation, la discrimination, le détournement cognitif, le gaslighting, la divulgation d'informations personnelles, donc le doxing, donc dire où la personne habite, où voici son numéro de téléphone, La révélation non autorisée d'une orientation sexuelle ou d'une identité de genre, du outing. Il y a vraiment des termes pour tout ça. Le harcèlement de personnalité publique. Donc, évidemment, parce que c'est une personnalité publique, elle mérite de se faire écœurer. C'est bien connu. L'extorsion d'argent, la sextorsion. Donc, des gens qui envoient des photos osées, mais qui finalement se retrouvent à devoir payer 1 000 $ pour pas que ces photos-là soient publiées quelque part. Donc, il y a tout ça. Et techniquement, parce que c'est tous dans la grande famille du trollage, des trolls, bien, c'est sûr que c'est pas pris à la même échelle. Parce que, justement, il y a des affaires bien pires que d'autres. Au Canada, les comportements sont considérés comme des infractions au code criminel, surtout la partie cyberintimidation, cyberharcèlement. Ce qui a également donné droit ce matin, c'était dans le journal de Montréal, Journal de Québec, qui avait une enfant qui est sur les réseaux sociaux. Déjà là, en partant, c'est problématique, mais ne serait-ce que le fait qu'elle est jeune, qu'elle ait 6 ans. Donc, ils ont à peine appris à écrire. Ben, en fait, probablement qu'ils s'envoient des messages vocaux plus qu'ils s'écrivent des messages parce qu'à 6 ans, on n'a pas nécessairement appris encore à tout écrire. Et surtout, le genre de messages qui sont envoyés, c'est qu'elle se fait traiter de salope à 6 ans et que ça se passe sur Snapchat, ça se passe sur les réseaux sociaux. Et ça a pris que la mère de sa fille lui enlève quasiment le téléphone des mains pour lui dire « Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Pourquoi tu es distante depuis 3-4 jours? » Un enfant de 6 ans, je le rappelle. Qu'elle ait vu les messages sur Snapchat et qu'elle a été obligée d'intervenir, de prévenir l'école, qu'il y a eu une rencontre avec les parents des autres enfants. Parce que oui, c'est problématique le fait de l'âge, mais comment se fait-il à la grosse base de tout ça, que ces enfants-là aient ce comportement-là sur les réseaux sociaux, pas du simple harcèlement dans la cour d'école de « tes lettres, t'as pas d'amis ». Non, 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 que ça aille sur les réseaux sociaux, donc jusque dans la maison de la petite fille, et qu'elle se fasse dire qu'elle est une salope à 6 ans. Parce qu'évidemment, ces enfants-là ne comprennent pas le sens de ces mots-là, sont trop jeunes. Mais comment ça se fait qu'ils connaissent ces mots-là à la base de tout ça? Comment se fait-il que ces comportements-là existent pour ces enfants-là qui utilisent des réseaux sociaux? Donc, c'est normal que la question commence à se poser de est-ce que les réseaux sociaux devraient être pour du 14, voire 16 ans et plus? Parce qu'effectivement, ce n'est pas normal que des enfants primaires se harcèlent. Puis là, dans ce cas-ci, maternelle, première année, se harcèlent sur les réseaux sociaux aussi jeunes. Oui, l'âge est problématique. Mais au fin fond de tout ça, comment se fait-il que ce comportement-là existe alors qu'il soit aussi jeune? Donc, oui, il y a les trolls inoffensifs, entre guillemets, les gens qui ont juste envie de provoquer pour provoquer. Mais ça peut, comme je le dis, tomber extrêmement rapidement dans du harcèlement et dans des comportements criminels. Mais parce qu'on se cache derrière un personnage, parce qu'on se cache derrière quelque chose d'anonyme, ben ça fait en sorte que on pense qu'on est protégé, qu'on peut faire ce qu'on veut, mais c'est que la journée que la Sûreté du Québec débarque chez vous en l'arrêtant la personne, que l'on commence à regretter un petit peu. Mais avant ça, parce que les conséquences sont minimes et que, ironiquement, ils peuvent se faire trouver sur Internet et dire qui ils sont, d'où ils viennent et où ils travaillent, donc se faire doxer par d'autres trolls. Ça fait que c'est la queue du serpent qui se mord. C'est combattre le feu par le feu dans ce cas-ci. Donc, renforcer et convaincre la personne qu'elle a bien fait d'harceler du monde parce que maintenant, elle se fait harceler, donc elle va harceler plus de personnes, bien là aussi, ça devient problématique. On s'arrête là-dessus. Au retour, la suite du deuxième service. Ici même sur les ondes de CFA 88.3 et de CHIS 94.3. Auto, qu'on vient d'entendre en musique avec 8 milliards sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de CHIS. Politique cette semaine. Bon, j'en ai parlé un petit peu. Se mettre les pieds dans les plats, comme d'habitude, Bernard Drainville remplit son mandat du côté québécois. Donne le punch, même, du fameux rapport que doit remettre la CDPQ Infra dans les prochaines semaines. Donc, après avoir... gifler le maire de Québec en lui retirant des mains pendant qu'il est en train de le faire, le projet de tramway. Bernard a décidé de revenir à la charge cette semaine en disant « Ben là, c'est sûr que la CDPQ va dire qu'il faut faire un troisième lien. Voyons, j'ai dit qu'il allait avoir un troisième lien. On va faire un troisième lien. » Donc, gâchant ainsi le punch de la CDPQ de probablement nous dire qu'il allait avoir un troisième lien dans deux mois. Après ça, évidemment, Bernard s'est gardé de dire si ça allait être un troisième lien de char ou un troisième lien d'autobus. Mais il tient, hein, parce que son siège, ainsi que ceux de tous ses collègues de la région de la Capitale-Nationale, sont tous en danger. Autant lui que Martine, que Geneviève, que Jonathan Podehache, que Sylvain Lévesque, toute la gang en ce moment sont en danger. De la carte actuelle, il y a à peu près juste Étienne Grandmont qui survit. Tous les autres passent au PQ. Ou, si il est chanceux, Éric Duhaime dans Chauveau, mais encore là, c'est pas dit. Surtout s'il réussit à se rendre jusque-là, ça serait encore pas complètement impossible que sa base se réveille et décide de mettre un autre chef. Mais encore là, un peu comme la CAQ, si Éric Duhaime part du Parti conservateur, qui le remplacera et sera-t-il capable de faire autant de points de pourcentage que lui? La question est lancée quand même, parce que même, encore une fois, si on n'est pas d'accord avec lui, ça reste quand même un candidat vedette pour sa propre gang. Donc, remplacer Éric Duhaime par qui? La question se pose. Et est-ce que cette personne serait capable de faire autant qu'Éric? Là, ça risque d'être difficile. Par contre, s'il y en a un qu'on ne sait pas trop ce qui s'en va avec ses patins, c'est bien Justin Trudeau, qu'on est quasiment à se demander s'il veut tant que ça faire la prochaine campagne électorale. Parce que depuis 2 semaines et demie, 3 semaines, on a décidé de faire des annonces du côté du Parti libéral. Parce que le budget fédéral sera déposé à la mi-avril. Par contre, on a décidé d'adopter... la technique de l'effeuillage du budget. Donc, un peu à chaque semaine, on va dévoiler des pans importants du programme libéral qu'on veut mettre de l'avant, qu'on veut mettre en lumière, de peur, et de toute façon, c'est ce qui va arriver, que lorsque le budget va être présenté, évidemment, on va focusser sur le fait qu'il y a des dépenses, il y a des déficits, on va parler de l'argent plutôt que du contenu du budget. Parlez-en à Éric Gérard, il a beaucoup plus parlé du fait qu'il va faire un déficit de 11 milliards, peut-être moins, si peut-être l'économie va de son bord, si peut-être le taux directeur vient bon, si peut-être, il y a beaucoup de si peut-être. Donc, dans le cas libéral, on décide d'y aller une proposition à la fois de « voici ce que nous allons faire, ha ha ha, nous avons de bonnes idées ». Le problème, c'est que ces idées-là empiètent sur les compétences du provincial. Ce qui fait en sorte que, évidemment, pour l'électeur moyen, se faire rembourser un traitement de canal à 1 200 $ chez le dentiste, avec ou sans l'apport du NPD. Là, évidemment, le NPD se réclame comme étant les grands défenseurs, mais évidemment, les libéraux avaient quand même une idée de projet de dentisterie malgré tout. Mais bon, d'un commun accord, pour ne pas déclencher d'élection il y a un mois, on a présenté une couverture dentaire des libéraux, mais comme c'est des soins de santé directement au public, normalement, ça devrait relever du provincial. Donc, évidemment, en tête de file, François Legault, qui veut toujours prouver qu'il est tellement meilleur que Justin, est sorti en disant « Il empiète sur nos compétences, s'il veut faire ça, qu'il nous donne l'argent sans droit de regard, donc qu'il nous fasse un chèque pour qu'on soit capable de nous le mettre où qu'on veut, cet argent-là, hein, qu'on décide nous-mêmes de notre argent qui nous est dû d'un programme qu'on veut pas. » Un peu comme la création des garderies que l'on avait déjà au Québec, évidemment, les garderies 5$, 7$ maintenant, mais un tarif pour les garderies qu'on veut mettre dans l'ensemble du Canada grâce au fédéral, mais que c'est une compétence provinciale. Fait qu'évidemment, du monde comme Rob Ford sont sortis pour dire « Là, c'est de l'empiètement dans nos compétences. Réglez vos dossiers à Ottawa. Arrêtez de jouer dans notre cour. » Cette semaine, on a eu le droit à un registre des loyers du côté fédéral, ce que, évidemment, la comtesse Duranceau avait fortement refusé d'un revers de brioche de son côté. Mais qu'au fédéral, on veut mélanger ça avec la cote de crédit. Donc, si les gens payent leur loyer à chaque mois, ça soit comme si on payait sa carte de crédit à chaque mois, donc que nous sommes de bons payeurs, donc que la cote de crédit au fédéral, qui est l'argent, donc qui est géré par Ottawa, soit s'améliore pour certaines personnes qui, bon, oui, ont peut-être 8, 9, 10 cartes de crédit loadées à côté jusqu'au cou, mais parce qu'ils sont capables d'au minimum payer leur loyer, ça puisse les aider un tout petit peu. Mais là, après ça, évidemment, comme on est dans le logement, ça tombe dans la cour du provincial. Donc, est-ce que ça veut dire que Justin Trudeau veut s'ingérer, encore une fois, dans le pouvoir des provinces? Est-ce que ça veut dire que il veut tout contrôler? Et là, ça a été une sortie en règle de François Legault, de Ford, de l'Alberta, Daniel Smith... T'sais, tout le monde est sorti en disant, là, si Justin Trudeau veut faire de la politique provinciale, qu'il aille en politique provinciale, qu'il lâche le fédéral, à toujours vouloir s'ingérer dans le pouvoir des champs de compétences des gouvernements de chaque province. Avec raison, c'est sûr qu'ils sont fâchés, parce qu'eux arrivent avec des idées, mais comme je le disais, que ce soit 1 200 remboursé par le fédéral pour un traitement de canal... ou que, justement, la cote de crédit va s'améliorer et que peut-être, justement, au prochain renouvellement de bail, il va être capable de passer au crédit parce que, justement, ses précédents loyers ont été payés à temps, bien, le citoyen, lui, c'est pas ça qui le dérange. Si ça l'avantage, c'est sûr qu'il va être pour. Mais après ça, si on dit que Justin paye les frais de dentisterie, mais qu'on arrive au Québec et que François Legault lui dit « Non, pas question », bien, c'est sûr qu'il va y avoir des points d'interrogation. Puis là, de se dire « Oui, mais là, je vais-tu avoir le droit de faire réparer ma dent ou j'aurai pas le droit? Qui va avoir le droit? Dans quelle clinique qui va réclamer au fédéral ou au provincial? » Parce que techniquement, le provincial va avoir un chèque. Mais est-ce que ce chèque-là, rendu au Québec, va évidemment aller, ou plutôt va normalement aller en santé? Comme c'est pour des soins dentaires, ou va mystérieusement disparaître dans l'éventuel troisième lien de la caisse de dépôt de placement et de Bernard Drainville. Quand on dit que tout est dans tout, mais à la question initiale, de quoi se mêle Justin et fait-il exprès pour vouloir diluer son appui envers lui? La question se pose. Parce que oui, de son côté, il n'attaque pas à chaque fois que Pierre Poilievre fait une attaque sur lui. De toute façon, on a commencé à comprendre le principe que s'il a neigé la semaine passée, le premier jour du printemps, c'est de la faute à Trudeau. Ben, c'est sûr que ça, ce bout-là, il commence à gosser plus que d'autres choses, à troller plus que d'autres choses. Mais de rester passif et d'encaisser et de... soudainement, peut-être un peu éclore à la campagne électorale, moi, j'ai envie de dire qu'il va être trop peu trop tard. Mais bon, la technique pour l'instant du côté libéral semble être d'attendre le bon moment. Mais en ce moment, attendre le bon moment, ça fait en sorte qu'ils vont être à moins de 100 députés et Pierre Poilievre va être à plus de 200. Donc, un conservateur majoritaire extrêmement fort pour 2025 à 2029. Si la gang libérale continue de ne rien faire, c'est un gouvernement conservateur majoritaire qui va prendre le pouvoir extrêmement facilement. Parce que de tout miser sur le fait que le programme conservateur va être tellement aberrant pour les yeux des libéraux que là, ça va être facile d'attaquer le Parti conservateur, mais il va être trop peu trop tard d'attendre à seulement dans 12 à 15 mois. Reste à voir, mais il y a une campagne électorale qui s'en vient. On y va à la technique de la marguerite de présenter le programme un petit peu tous les jours jusqu'à la mi-avril. Mais à quel coût, encore une fois, va falloir commencer à s'inquiéter davantage. Ou en tout cas, il va falloir que ça grommelle encore plus dans les rangs en secret parce que pour l'instant, c'est très, très, très passif comme technique. Ce qui fait en sorte qu'évidemment, les conservateurs de leur côté vont être extrêmement contents de prendre le pouvoir majoritaire pendant 4 ans avec en plus Pierre Poilievre à la tête du pays. En tout cas, on s'arrête quelques instants au retour. La conclusion de l'émission cette semaine, vous écoutez le deuxième service sur les ondes de CFAQ, sur les ondes de Chiz. Retour au deuxième service, Maud Audet sur les ondes de CFAQ 88.3 et de Chiz 94.3 avec « Il faut partir maintenant ». Pas de lien avec Justin Trudeau, mais en tout cas, il faut partir maintenant. Ça peut être une idée, mais encore une fois, qui pour le remplacer, pour peut-être espérer contrer Pierre Poilievre, du coup, dans le clan libéral, ça serait difficile. Ça serait extrêmement difficile. Un qui a été heureux cette semaine, peut-être, ou en tout cas, qui le savait depuis un petit moment, mais que la vidéo a été rendue publique cette semaine, une rencontre entre Denis Villeneuve et Steven Spielberg a eu lieu dans un épisode du balado Director's Cut où Spielberg, celui derrière, entre autres, E.T., a vanté les mérites de Dune en disant que c'était un des plus beaux films de science-fiction qu'il avait vu. Vous avez réalisé l'un des films de science-fiction les plus brillants que je n'ai jamais vu, a lancé Spielberg à Villeneuve au sujet de Dune, deuxième partie. Selon Spielberg, Villeneuve fait partie d'une courte liste de cinéastes bâtisseurs de monde. Rien de moins. La liste n'est pas longue, et nous savons qui sont la plupart des gens qui s'y retrouvent, à commencer par Georges Méliès, Disney, Kubrick et George Lucas. Ray Harryhausen, que j'ai inclus dans cette liste, Fellini a construit ses propres mondes, Tim Burton également. Il y a évidemment Wes Anderson, Peter Jackson, James Cameron, Christopher Nolan, Ridley Scott, Guillermo del Toro. La liste est longue, mais elle n'est pas si longue et je crois profondément et avec ferveur que vous êtes l'un des nouveaux membres. Et encore une fois, venant de Steven Spielberg, Steven Spielberg, c'est quand même pas rien. Denis Villeneuve avait particulièrement impressionné pour une scène en particulier. Spielberg parle de la scène dans laquelle Timothée Chalamet réussit pour la première fois à chevaucher un ver des sables dans le désert. Donc, l'apprivoisement de la bête. Vous filmez le désert pour qu'il ressemble à un océan et les vers des sables pour qu'il ressemble à des serpents de mer. Cette scène de surf sur les vers de sable est l'une des plus belles choses que je n'ai jamais vues. A complimenté Steven Spielberg. Et c'est drôle parce que, justement, sur les réseaux sociaux, le making-of, le comment a été fait de cette scène-là, expliqué par Denis Villeneuve lui-même dans son anglais québécois, il disait qu'il n'y avait pas 36 façons de le faire. Il fallait être même à une heure précise pour que justement les reflets soient les meilleurs, qu'il y avait toute l'espèce de trappe, de tout ça, le cascadeur, puis tout ça, que de tout être capable de placer pour que ce soit crédible. et surtout le fait que cette scène-là n'était pas tournée en effets spéciaux, en CGI, que ce soit du vrai sable. T'sais, on peut en avoir ajouté au montage, mais que l'essentiellement, la scène était dans le sable, dans le désert, t'sais, d'avoir été capable de faire quelque chose de vraisemblable dans la vraie vie, qui fait également en sorte que ça devienne crédible et que justement, on ne soit pas en train de le regarder en disant « Ah, oh, c'est des effets spéciaux, c'est un fond bleu. » Il y a quand même beaucoup de vrais décors dans le Dune de Denis Villeneuve, même si évidemment, il y a du grand déploiement, mais il y a quand même beaucoup de décors réels. Ce qui ajoute évidemment à la vraisemblance du film. Et quand justement d'autres réalisateurs complètement établis comme Steven Spielberg viennent dire ça, je regardais ça, j'adorais ça. C'est sûr que c'est une assez bonne tape dans le dos pour Denis Villeneuve. Évidemment, il y est extrêmement occupé. Il y a plusieurs projets de films qui s'en viennent. Donc, à court terme, un troisième volet à Dune n'est techniquement pas dans les cartons. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas attendre non plus 10 ans avant de faire la suite. Donc, il y aura vraisemblablement un troisième volet, ne serait-ce que le succès des deux premiers justifie amplement la volonté de faire un troisième. C'est une très longue série de romans, donc il y a de toute façon du matériel pour en faire d'autres. À quelle date? Évidemment, on ne le sait pas. On est en 2024, avant que le projet puisse peut-être être entamé, commencer 26, 27... Tourner, filmer, monter, 28, 29, dans le meilleur des mondes, maximum 5 ans pour un prochain volet, on ne sait pas. Mais c'est sûr et certain que d'avoir des gens significatifs, probablement aussi significatifs pour Denis Villeneuve, qui vont lui dire « Hey, on aime ton travail, t'es dans la gang », ça fait certainement un petit velours. C'est là que ça se termine pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition du Deuxième Service. Ici même, sur les ondes de CFAQ 88.3 à Sherbrooke et sur les ondes 94.3 CFAQ à Québec. Bonne fin de journée. Restez bien branchés sur nos ondes. À la semaine prochaine. Salut.
Université de Sherbrooke.
CFAQ. 88.